quartier de vie. Une émission de résonance sonore proposée par Agnès Gontier. Écoutons le son mystère.
C'était une harpe.
Je m'appelle Madi Seri, je fais de la poésie, du slam.
Je suis Arthur Coriolan et joue de la harpe celtique principalement avec Mehdi. Nous formons le duo Les Harpenteurs.
Je me suis intéressé à l'écriture d'abord. En fait, c'était une nécessité pour moi parce que j'étais très timide adolescent. Et du coup, l'écriture, ça m'a permis d'extérioriser plein de choses et de dire des choses vraiment profondes. C'est aussi en lien avec mon parcours scolaire. Parce que scolairement, j'ai arrêté en 5e avec 3 de moyenne générale. Et c'est vraiment l'écriture et la lecture et tout ça, et la poésie justement, qui m'a un peu remis sur les rails, quoi.
Il est très fin. Il a une diction très, très particulière et très aiguisée et très musicale aussi. Alors on s'est rencontrés à un cabaret musical à la médiathèque de Bagatelle. J'ai entendu Mehdi qui faisait une animation et il m'a entendu, je faisais aussi une animation à cette soirée-là. Dès la première fois qu'on s'est retrouvé ici même, dans le salon de Mehdi, on s'est mis à jouer à moi de la harpe et lui a posé ses textes dessus. Et puis on a vraiment décidé sur le champ de faire ce duo et de monter ce spectacle. Voilà.
Cette bande de mioches est venue se poser à mes côtés sur un de ces vieux bancs opaques et graisseux. M'observant nerveux, ils semblaient tous être de mèche pour me balancer tout un tas de méchancetés dessus, répétant plusieurs fois et de manière ferme ce foutu terme d'infirme et d'autres injures du genre. Était-ce juste histoire de me faire réagir ? Ce que je pense, c'est que lorsque se dessine un air rageur, c'est que, quelque part, la différence fait peur. Et si aujourd'hui je vous en fais part, c'est que je trouve cela plutôt sidérant de rester confiné comme un confini à redouter les râteaux et les candiratons, car c'est souvent comme ça qu'on finit par se considérer comme un raté. Et si aujourd'hui je devais retirer une chose de cette féroce souffrance, c'est que peu à peu, le souvenir de certains faits rance s'affaisse, car après le saignement que l'on enterre, ce qui compte surtout, c'est l'enseignement que l'on en tire. Et pour ma part, si j'ai découvert la richesse des mots et l'importance de ne pas les taire, c'est aussi quelque part parce que j'ai écopé d'un handicap moteur. Et il est certain aujourd'hui que c'est ceci qui m'a serti, qui m'a permis en quelque sorte d'accéder à cette porte de sortie, parce que finalement, tout ceci est bien la preuve qu'on n'est pas lésé par les épreuves. Et même si l'on passe pour un cinglé ou que l'on déclenche l'hilarité, il est important de garder en tête que notre différence, Arthur, c'est notre singularité.
Adolescent, je concevais la scolarité comme quelque chose de sympa. Moi, je venais pour retrouver les amis, en fait. J'avais pas du tout conscience qu'il fallait passer des examens, avoir ces examens pour pouvoir rentrer dans la vie active. Du coup, en fait, parce que j'ai un handicap, comme j'étais plus du tout dans le système scolaire, ma mère a dû trouver des solutions pour ne pas que j'aille en apprentissage, parce qu'elle voulait pas que ce soit trop dur pour moi. Du coup, je suis rentré dans un milieu handicapé. Au départ, c'était un établissement pour handicapés très lourd. Et ça a été le choc, en fait. Vraiment, le choc psychique. Je me souviens, quand je suis arrivé, le premier jour, ils faisaient du coloriage. Du coup, je me suis dit, waouh, c'est un peu étrange. Et en fait, je me souviens qu'une fois tous les 15 jours, on avait sensibilisation aux maths et aux français. Petit à petit, ces profs-là, de maths et de français, ont vu que j'avais des capacités. Et en gros, elles m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Et moi, j'ai dit, bon, mais je sais pas, c'est peut-être une erreur de parcours, quoi. Elles ont demandé au directeur d'un établissement toujours handicapé, mais avec un parcours scolaire ordinaire, elles lui ont demandé si c'était possible de m'intégrer. Et de là, j'ai fait 4e, 3e, 2e, 1ère, terminale. Et après, je suis jusqu'à la fac, quoi. Et à la fac, en sociologie, je suis tombé sur... j'ai choisi le sujet de la poésie contemporaine, parce que c'est un truc qui me parlait depuis toujours. Et du coup, c'est ce qui m'a poussé peu à peu à aller observer des soirées slam d'abord, à participer ensuite et à en organiser après moi-même. Je suis rentré petit à petit dans le milieu de l'artistique. Être victime de racisme, c'est en quelque sorte comme subir un séisme des racines, non ? Je vous dis cela parce qu'adolescent, je n'avais pas vraiment l'esprit en paix, empli d'aplomb. En effet, j'ai longtemps pensé à tort que ma double culture ainsi que la faiblesse de mon ossature étaient une véritable tare. C'est pas moi qui vais mettre sur mon slam une émotion, c'est l'émotion qui va sortir de cette manière-là et qui va donner cette forme-là, ce texte-là. Tant que j'ai pas, entre guillemets, retranscrit l'exactitude de ce que j'ai à l'intérieur, je suis pas satisfait de mon texte. Du coup, des fois, l'écriture d'un texte, ça peut durer 6 mois. Et après, une fois par contre que je suis satisfait, là, c'est nickel. Je touche plus rien, c'est, voilà. Ça bouge plus. Lassé en fin de compte de toute cette violence ainsi que de cette époque assez apocalyptique et opaque, ma nouvelle optique consistait à présent à tenir un discours suffisamment sage et consistant. Conscient dès lors que devant certains cons cérébralement silents, il fallait en quelque sorte savoir se montrer très con. Silient. Et depuis ce cas pas si lointain, j'ai une certaine capacité à gérer la colère. Alors, lorsque celle-ci racole, il est clair qu'avec elle, je ne perds plus mon temps. Je l'attends, père. Je faisais à peu près 170 fautes toutes les 10 lignes à peu près. Ça te donne un peu un ratio. Et l'idée, c'était, comme je n'avais pas assez de connaissances en matière grammaticale, je me suis dit, je vais prendre la racine de chaque mot. Ça me permettait d'apprendre de nouveaux mots. Du coup, je prenais un mot, j'essayais de trouver la racine et j'essayais de faire après des déclinaisons. J'avais l'impression comme un chercheur d'or, quoi. À chaque trouvaille, j'avais l'impression d'avoir trouvé ma pépite, quoi. J'étais aux anges. T'as l'impression d'arrêter le temps à ce moment-là. Vu que j'ai eu ce parcours-là, je me suis dit, pourquoi pas essayer de diffuser cette méthode-là pour donner envie à des enfants de faire pareil. Parce qu'il y a plein d'enfants qui sont en échec scolaire et on dit, les profs disent, vous ferez rien de votre vie, c'est fini, votre fils, il sera mécano ou il sera rien du tout. C'est pas vrai du tout, en fait. Il faut juste trouver son propre mode d'écriture. Désapprouvant fortement l'autorité parentale, beaucoup d'entre eux, au final, partaient en tôle, car le regard de la rue est hélas souvent tourné vers l'or. C'est pour cela que, pour ma part, au vu de mes valeurs, j'ai préféré me ruer vers l'art. Déplorant sensiblement cette ignorance d'un savoir qui se perd, d'une société qui se tasse, la transmission de nos pères restait donc pour moi d'une extrême importance. Plus encore que de me savoir mis à la porte d'un appart acheté avec l'apport d'un crédit revolving. Mes révoltes vaines, imposer ma vision bohème ne fut toutefois pas si simple, car je dus au préalable passer outre la hantise de mes parents qui avait pour thèse que ma part artistique devait être mise entre parents. Thèse. Les quartiers de Toulouse, moi, je n'y habite pas, mais j'y suis beaucoup, quoi. Je connais beaucoup de gens là-bas. Très jeune, j'ai adoré la culture rap. Je venais dans ces quartiers-là pour retrouver une espèce de dynamique, de pêche. J'adore travailler avec cette population-là. Ils sont curieux, ils sont inventifs, ils sont réactifs. Ils mâchent pas leurs mots. Quand tu fais quelque chose de moyens ou que t'es pas investi avec eux, ils te le disent aussi. Enfin, moi, quand je me balade à Bagatelle, mais jamais de ma vie, hein, jamais je me suis senti en insécurité, quoi. Après, je dis pas que la délinquance n'existe pas, mais après, quand on est délaissé, quand on est mis au banc à chaque fois des choses à faire, des choses à vivre, des choses à investir, c'est normal après qu'on crée un réseau parallèle un peu, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un système où tout le monde s'entraide les uns les autres parce que c'est vraiment un écosystème, en fait. C'est le système parallèle à un système établi, quoi. Et moi, comme je suis un peu de nature rebelle, j'aime bien cet esprit-là.
Merci à Maddy et à Arthur. Quartier de vie. une émission de Résonance Sonore. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.